on relit ensemble Ésaïe 54, verset 1er. « Réjouis-toi, stérile !» Ça peut paraître contradictoire. « Je suis dans un état qui ne me pousse pas à la joie, mais ma joie ne vient pas des circonstances, ma joie vient de qui est Dieu et de ce qu'il est capable de faire. Et mes yeux ne sont pas sur moi, sur ma stérilité, mais sur tout ce que lui veut et peut accomplir. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. » Oui, c'est vrai que ça fait peut-être un moment qu'on n'a pas vu les gens arriver en masse dans nos églises. « Réjouis-toi, fais éclater ton allégresse, ta joie, toi qui n'as plus de douleur. » On parle ici des douleurs de l'enfantement. « Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. » Il y a aussi ce verset 3. « Tu te répandras, promesse, tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Mais le pivot central de Ésaïe 54 et de ces trois versets, le pivot central, c'est le verset 2. Il ne pourra pas y avoir d'accomplissement de promesses de Dieu sans qu'il y ait une œuvre au préalable dans le cœur de tous et de chacun individuellement. Et cette œuvre, cet impératif, ces impératifs sont les suivants. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ça, c'était le premier impératif que nous avions vu ensemble. Deuxièmement, on avait vu, ne retiens pas. Troisièmement, nous avions parlé de tous ces moments, ces domaines dans lesquels malheureusement nous sommes trop courts et nous avons besoin d'allonger, d'aller plus loin, allonger, long, longueur, aller plus loin, allonge tes cordages. Et le quatrième impératif que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est affermis tes pieux. Amen. Je sais que avant que par la grâce de Dieu, nous soyons un jour obligés d'élargir l'espace de cet endroit physique, matériel, il va falloir d'abord, il y a toujours une œuvre intérieure, avant l'œuvre extérieure, il faut déjà élargir à l'intérieur. Ce qui se passera à l'extérieur dans le contexte de la croissance qualitative et quantitative numérique de l'Église ne sera que la conséquence simple, logique, même elle nous semblera facile, dans une certaine mesure, de ce que nous aurons accepté d'élargir dans nos cœurs. Avant que le bureau, le conseil d'administration, s'arrache le peu de cheveux qui lui reste, parce que ce sera pas simple, quand on sera devant des défis de construction ou d'agrandissement, et moi mes cheveux, c'est pas un problème, j'arracherai plus rien, mais eux, ils en ont encore à arracher. Et du coup, avant qu'ils aient l'occasion un jour de s'arracher les cheveux en se disant « Seigneur, fais-nous grâce, comment on va faire? On va où? On n'a que 5 pains et 2 poissons, comment est-ce qu'on va faire un nouveau bâtiment? Comment on va agrandir ?» Avant qu'ils se posent la question de ce que ça va leur coûter matériellement, financièrement, il va d'abord falloir que nous, dans nos cœurs, on accepte de ne pas retenir. Et c'est ça la pensée du texte, ne retiens pas, c'est une pensée de coût. Élargis l'espace de ta tente, spirituellement parlant, et arrête de regarder ce que ça va te coûter. Ensuite, il va falloir allonger. Est-ce qu'on allongera par là-bas, par là-bas, par là-bas, par là-bas ? J'en sais rien. De toute façon, le texte dit « tu te répandras à droite et à gauche ». Mais il faut déjà, on l'a vu la semaine dernière, dans les 2 derniers dimanches, considérer tous les points dans lesquels nous avons, nous les uns et les autres, à allonger. Et puis, c'est logique. Le quatrième impératif, et là il est indispensable, quand on parle de construction, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit spirituelle avant toute chose, il faut aussi, c'est le quatrième impératif du verset 2, il faut affermir les pieux. Les pieux, frères et sœurs, c'est très simple, hein, je vais vous parler de piété ce matin. Les pieux, c'est ce qu'on enfonce dans le sol, pour que l'ensemble tienne, soit solide. Avoir des pieux qui soient solidement enfoncés dans la terre du royaume afin de pouvoir faire face à toutes les tentations qui peuvent se présenter. Et vous savez que dans la vie chrétienne, il y en a des tentations. Et à toutes les épreuves qui peuvent se présenter parce que vous savez que des épreuves, il y en a, nous y sommes tous soumis. Et si on veut pas qu'à la première bourrasque, à la première tempête, au premier orage, ou peut-être au cinquième ou sixième orage, à la prochaine tempête, à la prochaine bourrasque, au prochain coup de vent, si on veut pas que notre être intérieur, notre vie spirituelle, soit emportée comme une malheureuse tante Quechua qui va être emportée, balayée, il faut absolument enfermir, il faut absolument enraciner. Ce texte, que nous avons mis toujours en parallèle avec Éphésiens 3, où il est question des dimensions, des quatre dimensions de l'amour de Dieu, dans sa hauteur, dans sa largeur, dans sa longueur, mais aussi dans sa profondeur. Être profond avec Dieu, affermi des pieux. Le pieu, c'est ce que l'on enfonce. Et le Seigneur ici me dit, il faut absolument que tu t'affermisses, il faut que tu t'enfonces dans la terre du royaume, il faut que la tente, cet espace spirituel que tu es avant toute chose, ne soit pas emporté par des ouragans, par des tempêtes, par des épreuves, par de l'adversité, par des circonstances contraires en tout genre. Il faut absolument que tu affermisses. Parce que c'est la solidité de l'ensemble qui va dépendre de ta réponse à cet impératif « affermis tes pieux ». Le verbe « affermir » ici est très intéressant. Il traduit le verbe hébreu « chazak ». Ce verbe signifie littéralement « se fortifier ». Donc oui, il y a la notion de pieux, pieux, piété, mais le verbe ici en hébreu signifie littéralement « se fortifier ». Mais il désigne aussi, c'est ce que j'aime, cette détermination de cœur, cette résolution intérieure. C'est comme si le prophète, en disant « affermis tes pieux », il disait aussi « fortifie-toi ». C'est comme s'il disait « sois résolu, sois ferme avec Dieu. Il faut que tu saches ce que tu veux ». Très souvent, frères et sœurs, dans notre vie avec Dieu, pour un oui, pour un non, on ne sait plus. On ne sait plus ce qu'on veut. Il y a des moments dans les évangiles, ça m'a pas choqué, mais surpris de voir Jésus. Il y a un gars, il est aveugle, il vient devant lui. Le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais quoi, Seigneur? Tu t'attendais à ce qu'il te demande 50 euros? Il est aveugle, qu'est-ce que tu veux à ton avis, Seigneur? Mais c'est pas des questions anodines. Parce qu'il y a vraiment le Seigneur est en train d'aller chercher au fond des tripes, des entrailles, cette détermination, cette résolution de foi, de gens qui ont dit, je veux absolument, oui, je sais ce que je veux avec Dieu, et parce que je suis tellement résolu, je vais pas retenir, je vais accepter d'aller plus loin, je vais payer des prix. Ces quatre impératifs sont interliés, interdépendants, ce sont quatre dimensions, mais qu'il faut considérer en même temps. Affermi, c'est aussi ce verbe chazak, on le retrouve dans différents contextes dans l'Écriture. Dans le psaume 27, le psaume 27 qu'on appelle le triomphe de la foi dans l'adversité, David dit « fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, enracine ton cœur dans la terre du royaume de Dieu. Comme un pieu que tu vas enfoncer dans la terre, il faut sans cesse que tu t'enracines, que tu te fondes, que tu t'affermisses, il faut que tu t'enfonces toujours un peu plus dans la terre du royaume. » Et c'est ça qu'Ésaïe est en train de dire. Devant un défi de conquête, Josué, chapitre 1er, verset 7, la première chose que Dieu dit à Josué, en plus de lui dire « médite ce livre de la loi jour et nuit, qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche », ça c'est le verset 8, au verset 7, et plusieurs fois le Seigneur va lui dire « Josué, fortifie-toi ». La conquête, tu vas vite le découvrir au chapitre 6, la conquête c'est beaucoup plus moi que toi. Il faut que toi, tu t'affermisses, il faut que tu te fortifies. Il lui dit « fortifie-toi, chazak », c'est le même verbe qu'en Isaïe 54. Il faut que tu t'affermisses. Et ici, face aux dimensions vertigineuses de Dieu qui veut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, espérons, demandons, imaginons, il n'y a pas de mystère, c'est très simple, il faut absolument s'affermir, s'affermir et s'affermir encore. Descends, creuse, va plus profond. C'est ça le véritable secret de la vie élevée avec Dieu. Ce sont les principes de vie de la nature. Ce sont les règles de la construction dans le bâtiment. Vous regardez la nature, vous avez de ces arbres, on le sait, plus l'arbre est élevé, plus ce que vous voyez devant vous est haut, plus les racines sont profondes. Ça, tout le monde le sait. Si vous voulez construire une maison, un édifice, un building, ce que vous voulez. Si vous construisez un abri de jardin ou une cabane de pêcheurs, vous mettez juste une petite chape en béton armé, hein, vous mettez un treillis soudé, vous coulez du béton avec du gravier, vous faites une chape de 10 cm avec un petit un béton armé, vous posez votre abri de jardin ou vous posez votre cabane de pêcheurs, et puis c'est bien, ça suffit largement. Mais plus il va falloir monter, si vous commencez à faire une maison vraiment d'habitation, si vous faites ensuite une maison à étage, il va falloir envisager un vide sanitaire, il faudra être plus profond. Si vous voulez construire un immeuble de 2-3 étages, il va falloir des fondations. Si vous voulez construire le Trade Center Building, truc machin, je sais plus le nom d'ailleurs, eh ben il va falloir des fondations en conséquence. D'accord ? Et le Seigneur, il est en train de nous dire, c'est une promesse. Le Seigneur, il est en train de te dire, moi j'ai une vie élevée pour toi. J'ai une vie élevée pour l'église de Manosque. J'ai une vie, j'ai un projet, j'ai une vision, j'ai des choses à vous communiquer, j'ai des choses à vous faire voir. De ma vie, de ma gloire, de ma puissance. J'ai ça pour vous. Mais comment vous allez tenir si vous avez des fondations de cabanes de pêcheurs? Vous allez être emportés, vous allez être balayés, parce que l'œuvre de Dieu, quand l'œuvre de Dieu va venir, forcément viendront aussi les épreuves qui vont avec. Viendra l'opposition qui va avec. Viendront les tentations qui vont avec. Viendront les vents contraires. Si le vent de l'esprit souffle, j'ai pas peur, c'est le plus puissant de tous. Amen. Mais je sais que plus le vent de l'esprit va souffler, plus le diable va faire lever des vents contraires. Et le Seigneur me dit, affermis tes pieux. Affermis pas tes pieux demain. Affermis tes pieux aujourd'hui pour que ça pousse demain. Et la vérité dans ce texte, frères et sœurs, alors que tout Ésaïe 54 est un chapitre de promesses, d'avenir, le Seigneur est en train de leur dire, je paraphrase la pensée, affermis tes pieux aujourd'hui, affermis-toi aujourd'hui à cause de ce que je vais faire demain. Demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare toujours aujourd'hui. Affermis, sois résolu, sois déterminé, sois ferme avec Dieu. S'il dit élargis, c'est parce qu'il y a des domaines dans lesquels nous sommes beaucoup trop étroits. Beaucoup trop enfermés dans des conceptions stériles, sèches, qui nous détruisent plus qu'elles nous édifient. C'est dans nos cœurs que ça se passe. S'il dit élargi, c'est parce que le Saint-Esprit est trop sclérosé, il est trop limité. Si le Seigneur dit ne retiens pas, c'est justement parce que ma tendance humaine, c'est de me demander combien ça va me coûter. Et puis, en me demandant combien ça coûte, naturellement, je vais revoir mes exigences à la baisse. Oh frère, faut pas exagérer avec Dieu. Quand même, pas tant que ça. Et on revoit nos exigences à la baisse. Tout bien réfléchi. Bon, je sais bien que je suis pas parfait. Je sais bien que je vis pas forcément grand chose par rapport à ce que je lis. Mais franchement, frère, vous pensez pas que bah, finalement, on n'est pas si mal comme ça. Je suis pas si bien comme ça. Le Seigneur, il dit, arrête de revoir tes exigences à la baisse. Arrête de retenir. Arrête de penser petit. Et si le Seigneur dit, allonge, on a vu, c'est parce qu'il y a tellement de domaines dans lesquels on est trop court. Et s'il dit, je vais pas être méchant, je vous préviens d'avance, je vais lâcher un truc. S'il dit, affermis tes pieux, s'il dit, affermis, sois plus profond avec moi, ben c'est parce que je suis trop superficiel. Sinon, il m'aurait pas dit affermi. T'es trop léger. Stéphane, t'es trop léger par rapport à ce que Dieu va faire et veut faire. Affermis-toi aujourd'hui pour ce que Dieu va faire demain. Affermis-toi. Stéphane, t'es trop léger. T'es trop superficiel. Tu te contentes encore de beaucoup trop peu. Sois profond avec Dieu, mon frère, ma sœur. Sois profond avec Dieu. Paul, en Éphésiens 3, je vous fais pas tout relire, mais il parle aussi justement de cet enracinement. Soyez enracinés et soyez fondés dans l'amour. C'est la profondeur. Parce que ces pieux que je vais enraciner au plus profond de la terre du royaume vont assurer la stabilité, la solidité, la longévité de ma vie avec Dieu, de la vie de l'Église et puis aussi de ce que Dieu veut et peut faire dans un avenir, j'en suis convaincu, même proche. Plus on élargit, plus il faut être profond, plus il faut creuser. Plus on veut construire haut, plus il va falloir faire des fondations solides et aller chercher en profondeur. Cet édifice spirituel qu'est notre vie, cet édifice spirituel qu'est l'Église, puisse s'élever, ce sont les règles de la nature et de la construction. Quand je parle d'élever, évidemment, je ne parle pas de l'orgueil. Hein. Je parle de vivre sur les hauteurs de la vie avec Dieu. On est bien d'accord. Hein. Je parle d'Hébron, je parle du mont Hermon, on peut parler de beaucoup d'images. On parle de la vie élevée, de la vie sur les hauteurs avec Dieu. On ne parle pas d'orgueil qui est un principe de chute, on est bien d'accord. Pour que cet édifice spirituel qu'est ma vie, qu'est l'Église, puisse s'élever, il va falloir creuser, descendre, enraciner les pieux. Et ça, ça s'appelle une vie de piété qui soit toujours plus sérieuse, profonde avec Dieu. Affermi. C'est à toi de le faire. Toi, affermis tes pieux. Va checker tes pieux, va les vérifier. Il y a plein de moments dans nos vies où le Seigneur permet que nos pieux soient vérifiés. Il suffit qu'il y ait un frère ou une sœur qui passe puis qu'il fasse ça. Ouf. Oh, je m'emporte. Affermis tes pieux. Il suffit que cette semaine, lui, elle, mon fils, ma fille, il m'ait encore dit, il s'est encore fait. Et Dieu, il le sait. Et il permet que... Et puis là, intérieurement, tu t'effondres. Affermis tes pieux. Affermis tes pieux, c'est ma responsabilité, c'est votre responsabilité. Je ne peux pas m'engager à votre place. Vous ne pouvez pas vous engager les uns à la place des autres. Je ne peux pas chercher Dieu pour vous. Je ne peux pas aller plus loin pour vous. Je ne peux pas élargir à votre place. Je ne peux pas payer le prix à votre place. Je ne peux pas allonger à votre place. Je ne peux pas affermir à votre place. Ce sont des impératifs qui nous concernent tous individuellement. Et si chacun individuellement saisit, comprend, reçoit, répond, c'est toute l'Église qui va... prendre la dimension qu'elle doit prendre dans la pensée de Dieu. Si tu veux voir plus de Dieu à l'œuvre, dans ta vie, dans tes circonstances, il va falloir élargir, allonger et affermir. Si tu as soif de plus de sa plénitude, de sa présence, pardon, si tu en as marre de vivre au ras des pâquerettes, vous connaissez l'expression, des fois on dit « elle est gentille mais ça vole pas haut ». Dites ça des fois. Ah, ça vole pas haut. Parce qu'on vit au ras des pâquerettes. Et si on veut vivre mieux, si on veut vivre plus haut, si on aspire à plus de hauteur, eh bien, il faut avoir plus de profondeur avec Dieu. Une chose est sûre, c'est que si Dieu nous a fait naître de nouveau, c'est pas pour que nous restions des bébés, c'est pour que nous grandissions. Si Dieu a fait naître cette église de Manosque, c'est pas pour qu'elle reste à l'état spirituel où elle est aujourd'hui, même si on dit merci Seigneur pour ce qu'on a. C'est pour qu'elle grandisse. Si Dieu me fait naître de nouveau, c'est pour m'emmener sur les hauteurs de la vie avec lui. Parce que Dieu a pour nous des objectifs bien plus élevés que ce que nous pensons. Nous, on pense toujours que ça va, on se contente et c'est bien. Dieu a des objectifs, une vision bien plus élargi, il veut bien plus pour nous que ce que nous pouvons penser en réalité. Sinon, il ne serait pas Dieu. Dieu m'a fait naître de nouveau, c'est pour que je vive là-haut avec lui. Pas seulement quand je serai dans le ciel, mais déjà sur la terre, que j'ai cette dimension sur les hauteurs de sa vie et pas dans la bassesse du péché, de la misère, de toujours les mêmes luttes, toujours les mêmes échecs, toujours les mêmes questions, toujours les mêmes limites, toujours les mêmes impossibilités, toujours les mêmes refrains, toujours les mêmes rengaines, et toujours, et toujours, et toujours, et ça fait des années que ça dure, et c'est toujours pareil. Dieu m'a fait naître de nouveau pour que je vive mieux, pour que je vive plus haut. Et le Seigneur me dit ça, C'est pas un problème. Mais j'ai vraiment besoin maintenant que tu plonges tes racines dans ma présence. J'ai besoin que tu sois profond avec moi pour qu'on puisse prendre de la hauteur ensemble. Dieu veut que chacun d'entre vous, nous, Dieu veut que tu sois un grand homme et une grande femme de Dieu. Tous, sans exception. Il y a des trucs, si un jour vous allez vous promener chez Jardiland ou chez Weldom, enfin je sais pas ce qu'il y a ici, moi j'ai pas la main verte. Il y a un truc qui m'a toujours fait rigoler, vous savez, c'est quand vous allez et que vous avez les petits arbustes comme ça là, les bonsaïs, les trucs, c'est mignon hein, c'est mignon, mais franchement ça sert à rien. Ça décore, c'est comme les guirlandes sur le sapin de Noël, elles servent à rien, elles décorent. Et quand le petit bonsaï, c'est mignon, c'est joli, mais ça produit rien. Faut être honnête, ça sert à rien. Mais donnez un coup de coude à votre voisin, dites-lui, t'es pas appelé à être un chrétien bonsaï. Hein. T'es appelé à être un chrétien palmier. Pardon pour l'image humoristique, on n'est pas des chrétiens bonsaï. On n'est pas des cabanes ou des cahutes. On n'est pas des garages, pardonnez-moi, ou des abris de jardin. Nous sommes appelés à être des chrétiens palmiers. Nous sommes appelés à être des édifices spirituels. Dieu veut que tu sois grand, mais pour prendre de la hauteur avec lui, c'est pas toi qui va t'élever. C'est pas toi qui va monter ton degré de sanctification. C'est pas toi qui va monter ton degré de plénitude du Saint-Esprit. Ce ne sont pas tes forces, ce ne sont pas tes mérites. Rien dans la vie spirituelle avec Dieu ne sera produit par toi. Ce n'est pas toi qui va le faire. C'est pas toi qui va élever ta vie. C'est lui qui va t'élever. À partir du jour où tu vas accepter d'être plus profond, il va te faire monter plus haut. Et la responsabilité de l'Église, c'est d'être profond avec Dieu et d'être beaucoup moins léger, d'être beaucoup moins superficiel. Affermis tes pieux. Ça, c'est la piété. Et c'est, je le redis, c'est un impératif, c'est le quatrième impératif. C'est quelque chose qui est personnel. Dans l'épître à Timothée, 1 Timothée 4, pour ceux qui notent, Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Toi, exerce-toi. Parce que tu ne pourras jamais vivre de la piété de ton conjoint. Tu ne vivras pas des racines, des ressources, de la profondeur de ton mari ou de ta femme. Tu ne pourras jamais vivre de la vie de piété de ton pasteur ou d'un ancien ou d'un leader de chant. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Même si l'Église était en train vraiment tous individuellement et collectivement de s'affermir et que vous soyez le seul qui soit pas enraciné, affermi, personnellement, même si tous ont une vie de piété, je pourrais pas vivre de la vie de piété de l'Église. C'est pas possible. C'est personnel. C'est un combat personnel. Et quand Paul dit « exerce-toi », dans la pensée originale, il fait référence à l'entraînement des athlètes. Il prend un verbe qui est issu de la pratique du sport pour montrer que, oui, dans la vie avec Dieu, il y a un coup. Si je veux faire des fondations, il va falloir que je creuse. Et il faut pas se leurrer, oui, ça va me coûter. Et pour creuser dans la vie avec Dieu, c'est pour ça qu'il a dit ne retiens pas, arrête de regarder ce que ça va te coûter. Parce qu'évidemment, ça va te coûter. Parce que vivre pieusement en Jésus-Christ, ben oui, ça a un coût. C'est évident. Il y a des fois des gens qui disent, oh frère, c'est dur. Ben, si vous me montrez le verset où Jésus dit que c'est facile, promis, dimanche prochain, je prêche dessus. Le deal, il est honnête. Vous me montrez le verset, je vous le prêche la semaine prochaine. C'est honnête comme deal. Il n'y en a pas, évidemment. Parce que oui, l'entraînement de l'athlète va être coûteux. Il va être coûteux en termes d'effort, en termes de temps, en termes de renoncement, en termes de sacrifice, d'énergie dépensée, de discipline de vie. Et dans ma piété avec Dieu, ben c'est pareil. Il faut parler de temps, d'effort, de renoncement, de sacrifice de vie, de choix, d'énergie, de discipline. Pourquoi, frères et sœurs, des fois, on n'en vit pas plus avec Dieu? Excusez-moi, on a encore des priorités qui sont mal placées. Il y a des tas de chrétiens, c'est pas méchant, ils n'ont pas encore, au bout de 20 ans, ils n'ont pas encore les bonnes priorités. leurs choix sont pas positionnés, clairement tranchés et non négociables pour le Seigneur. Donc, emportés, comme dit Jacques, flottants. Oui, en termes de choix et de discipline de vie, la piété, ça coûte. C'est un style de vie, c'est tous les jours. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je le fais pas pour rien. Je le fais parce qu'il va y avoir un énorme bénéfice. Quand on a prêché, ne retiens pas. Si le Seigneur me dit, ne regarde pas ce que ça va te coûter, c'est parce que ce qui m'attend est bien mieux que ce que ça va me coûter. Ce que ça va me coûter n'est rien en comparaison de ce que le Seigneur veut et peut faire. Et quand je commence, j'en suis pas toujours conscient, pas souvent conscient, mais quand je commence à creuser, quand je commence à être profond avec Dieu, je suis déjà en train, plus je creuse, plus je suis en train de libérer les bénédictions de demain. Et ça me rappelle aussi ce que Paul dit, parce que Paul a beaucoup parlé de piété, notamment à Timothée, mais pas que. Souvenez-vous quand Paul dit « La piété est utile à tout », elle contient en elle-même la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Parce que je vais commencer à creuser avec Dieu, parce que je vais développer des racines avec lui, je vais pouvoir commencer à avoir des ressources nouvelles. Ces ressources sont le bénéfice pour ma vie présente, parce que je ne connais personne qui ressort d'un temps pour avoir creusé avec Dieu, qui ressort comme il était en arrivant. Sinon, c'est que j'ai loupé un truc. Il y a un bénéfice pour ma vie présente et pour celle qui est à venir, pour mon avenir sur terre, et aussi des répercussions bénies aussi dans l'éternité, mais dans mon avenir aussi sur terre. Et cette vie, elle a la promesse en elle-même de la vie présente, de cette Zoé dont je vous ai souvent parlé, cette qualité de vie qui signifie la vie de Dieu, la qualité de vie qui signifie aussi plénitude. La Zoé de Dieu signifie qualité de vie, plénitude, plénitude de Dieu. Paul n'a-t-il pas dit aux Éphésiens, il peut vous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et le seul chemin de la plénitude, il faut creuser, il faut descendre, il faut être profond, il faut être résolu. Parce que si dès que j'ai une petite ampoule, je remballe tout, il faut être résolu, il faut être déterminé, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut aller jusqu'au bout, on l'a vu dans d'autres messages. Il faut aller jusqu'au bout. Cette vie de plénitude, cette vie forte, cette vie abondante, cette vie surabondante, cette vie d'épanouissement, de satisfaction, cette vie va m'emmener, parce qu'elle est enracinée dans le Seigneur, va m'emmener à la qualité de vie de Dieu. Et c'est ça qui fait la force de la piété et qui fait la force de l'Église. L'absence de piété, on le sait, je ne vais pas m'étaler là-dessus, a toujours des conséquences. Vous pourrez relire, vous avez déjà lu maintes et maintes fois, certainement, dans toutes les époques tragiques d'apostasie, de recul, de léthargie du peuple dans différentes phases, peu importe leurs leaders ou les rois qui ont régné sur eux. Je pense notamment c'est toujours pareil, je pense au prophète Osée, où le Seigneur dit à son peuple, excusez-moi, je paraphrase, hein, c'est comme si le Seigneur disait, pourtant je vous ai pas demandé 50 000 choses, je vous ai demandé d'être profond avec moi, je vous ai demandé une vie de piété, parce que j'aime la piété, avant même ce que vous pourriez sacrifier pour moi, je vous demande une vie d'attachement à moi, une vie enracinée, je vous demande de la piété. Mais votre piété, Osée 6, est comme la rosée du matin qui bientôt se dissipe. Vous avez vu en été, c'est super agréable quand vous arrivez, vous sortez de chez vous, et puis vous avez cette petite rosée, on voit les petites perles d'eau, c'est tellement beau, c'est tellement mignon, c'est joli, ils sont mignons tous ces petits chrétiens, toutes ces petites perles et tous ces petits pasteurs, ils sont tous beaux là comme ça. Seulement quand le soleil, quand la chaleur de l'épreuve commence à se lever, la rosée s'est dissipée aussi vite qu'elle était arrivée. Et Dieu dit, c'est pas un reproche, il nous aime, c'est parce qu'il veut beaucoup plus pour nous qu'il dit ça. Il dit, votre piété, elle est comme la rosée du matin, on pourra rien faire dans ces conditions-là, on pourra pas faire si tu es pas plus enraciné que ça en moi. Alors après viendra la piété d'apparence, l'apparence de la piété, reniant ce qui en fait la force, une vie sans racine, donc pas irriguée par la vie du Saint-Esprit, donc sécheresse, donc re-pauvreté, donc re-terne, donc re-superficielle, et une vie dans laquelle il ne reste plus que routine, tradition, habitude. La piété, c'est vital, c'est nécessaire. Nécessaire, ça signifie indispensable aux besoins de la vie. Nécessaire, indispensable aux besoins de la vie. La piété, une piété plus profonde, c'est indispensable aux besoins de notre vie présente et de l'œuvre de Dieu pour demain. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, une protection. La vie de piété, c'est dans mon intérêt. Parce que la piété, c'est un rempart, c'est une force contre les œuvres de l'ennemi, contre les tentations, contre tout ce qui pourrait se présenter dans ma vie, dans le ministère, dans l'église. La piété, c'est une force, c'est une solidité. Et quand il y a des choses qui vont passer sur ma vie, des ouragans, des bourrasques, je suis fermement enraciné, attaché. Et il y a des tentations, comme un jour Joseph a regardé la plus belle femme du monde nue devant lui. Il lui a dit, non merci madame, allez vous rhabiller. Pourquoi il n'a pas craqué lui? Ben parce qu'il était plus attaché à Dieu, il était plus enraciné en Dieu que dans autre chose. La tentation peut venir, le rempart, la protection de ma vie, c'est mon attachement à Dieu. Après peut venir n'importe quoi, n'importe quelle blonde ou n'importe quelle je sais pas quoi. À partir du moment où il y a un enracinement, n'importe quel beau gosse sur ton lieu de travail, si tu as un enracinement en Dieu, le beau gosse, tu vas le regarder passer, tu vas dire « pauvre vieux ». Il a que ça. La piété, ça va être aussi un rempart contre les épreuves de la vie, contre toutes les épreuves, quelle que soit leur forme. Bien souvent, frères et sœurs, c'est pas, et encore là, je parle pas d'abandonner le chemin de l'Église évangélique association culturelle de Pentecôte depuis 1976, rue des Ponches. Je parle pas de ça. Je parle de la vie intérieure. Je parle de la vie intérieure où malheureusement, on était plus ou moins bien, on était pas mal avec Dieu, mais quand est venue cette épreuve, intérieurement, il y a un truc qui est plus pareil. La piété, ça va être un rempart, ça va être une force contre les épreuves, contre les vents contraires, contre l'adversité, quelle que soit sa forme. Alors ce message, et là il est simple, c'est la conclusion de ces 4 ou 5 dimanches qu'on a passés ensemble sur ce verset. Dieu me dit encore, pour ta vie, dans tes circonstances, je peux te faire vivre, je peux t'accorder, je peux te faire voir, je peux te conduire, on l'a entendu ce matin, je peux t'emmener, je peux faire bien plus que ce que tu penses, que ce que tu imagines, bien plus que ce que tu as besoin. Mais la vie et l'action du Saint-Esprit dans ta vie sera proportionnelle à la place que tu vas lui laisser. En élargissant, en arrêtant de considérer le coup, en allongeant, en allant jusqu'au bout, et puis en affermissant, en étant toujours plus profond avec Dieu. Élargis l'espace de ta tente. Arrête de regarder ce que ça va te coûter. Va plus loin, va jusqu'au bout, longueur, allonge, et puis enfin de la profondeur. Enracine-toi, soyez fondé et enraciné dans l'amour de Dieu, parce que si on n'a pas ça, on ne vaut plus rien et on n'a plus rien. Et c'est ce que je souhaite. Je ne pourrai jamais le faire pour vous, malgré tout l'amour que j'ai pour vous. Mais c'est ce que je souhaite pour tout et chacun, collectivement et individuellement. Que le Seigneur vous bénisse.